En fait, c'est simple. Comme on revient à la règle de base, l'objectif c'est de rentrer au paradis. On fait tous des erreurs. L'être humain c'est un pécheur. On part du principe que là. Si d'entre nous tombe dans le péché, tombe dans l'erreur, qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'autre, on l'abandonne, allez, tant pis pour toi, moi j'avance tout seul, hors de question. C'est pas notre objectif. Au contraire, on va le chercher, on le sort de l'erreur et on continue d'avancer ensemble.
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Cela nous est tous déjà arrivé. Cette porte fermée qui refuse de céder. Alors on prie, on supplie, on crie, parce qu'on en est persuadé. Il est là le bonheur, il est là. Mais Allah sait mieux que nous, et nous ne savons pas. C'est ainsi que commence la merveilleuse histoire de Walid et Fatiha. Ce récit, c'est une chasse au trésor. Tapis sous une cape d'humilité, enfoui sous des traits d'humour, se cachent des leçons d'amour qui valent vraiment le détour. Durant notre conversation, Walid et Fatiha reviennent sur la manière dont ils ont annoncé à leurs parents leur désir de s'unir, alors qu'ils étaient encore étudiants et n'avaient pas de quoi payer leur propre appartement. Au fil de la discussion, s'égrènent de précieux conseils pour se préparer au mariage et apprendre à le préserver contre vents et marées. Spoiler alerte, de la douceur, de la compassion, des invocations et un checking régulier des priorités peuvent profondément aider. Cette conversation, c'est une ode à la joie, un hymne à la foi. Parce qu'il est là le bonheur, il est là, en Allah. Je vous laisse sans plus tarder avec mes invités et vous souhaite à toutes et à tous, Inch'Allah, une merveilleuse écoute. Je vais vous demander, Inch'Allah, de vous présenter en me donnant votre prénom, votre âge respectif et puis votre situation un peu maritale. Bon, on a un petit indice vu que vous êtes tous les deux. Voilà, mais voilà, de nous dire combien d'années vous êtes mariés et puis votre petite famille. Je vous écoute.
Je te laisse commencer.
Ok, bismillah. Alors, moi, je m'appelle Fatiha, j'ai 36 ans. On est mariés depuis 10 ans maintenant. On a une petite fille qui a 3 ans, alhamdoulilah. Et alhamdoulilah, que du bonheur, alhamdoulilah.
Bah, pas grand chose à rajouter, si ce n'est que je m'appelle Walid, 33 ans. Et voilà, donc on s'est rencontrés en 2010, on s'est mariés en 2012. Et 10 ans, voire 12 ans de bonheur, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah. Mais justement, on va commencer par votre rencontre. Je me souviens de ce que tu m'avais dit quand vous êtes de ce que tu m'as dit et du contexte que tu m'as expliqué du contexte de votre rencontre et je t'avoue que moi ça m'a fait penser à un verset, une aya de la sourate Al-Baqarah et en français c'est mais il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose qui constitue pourtant un bien pour vous et il se peut que vous chérissez une autre alors qu'elle constitue un mal pour vous. Allah le sait mais vous ne le savez pas.
Ouais,
est-ce que c'est conforme à mes réminiscences ou pas du tout?
Ouais, totalement. Autant de son côté que du mien, je pense.
Racontez-nous un petit peu.
Vas-y,
attends. Je commence? Ok. Donc moi, j'ai eu un parcours scolaire assez facilité par Dieu. Alhamdulillah, j'avais jusqu'au lycée des très bonnes notes, c'était facile. Je décide de me lancer dans la médecine. Donc, fac de médecine. Donc à l'époque, c'était PCE1. Il fallait passer un concours à la fin de la première année. Et là, je me suis, pour la première fois, confronté à une difficulté. Pour la première fois, j'ai vu que il fallait vraiment travailler pour y arriver. Et j'ai bossé. J'ai bossé comme jamais. Et je priais Dieu pour réussir ce concours. Et ça n'a pas marché. Alhamdoulilah. Et donc, après 2 ans, j'étais un peu perdu. Après 2 ans de première année de médecine, je pouvais pas continuer dans cette voie. Donc, il fallait que je me réoriente. On me propose de continuer en licence de biologie. d'intégrer directement une troisième année de licence pour pas perdre de temps. Donc je vais là-dedans, un peu par dépit, par défaut. C'est intéressant. Donc allez, on continue. Master, quel master choisir? Je ne sais pas. Bon, allez, on part. On va décider de partir à Paris 6. Paris 6, nouvelle fac, nouveaux locaux, nouvelle ambiance. Et j'apprends. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en parallèle de ces années d'études, c'est vraiment pendant ces années-là que je me suis rapproché de Dieu comme jamais auparavant dans ma vie. Vraiment, ces difficultés ont fait que bah, il m'a fallu chercher du soutien, il m'a fallu chercher autre chose. Et vraiment, je me suis rapproché de la mosquée à ce moment-là. Et un des choix aussi de la fac de Paris 6, c'est qu'elle était à côté de la mosquée de Paris. Bon, c'est
Mashallah.
un petit plus.
D'accord.
Donc je vais dans cette nouvelle université et on m'apprend qu'il y a une vie associative qui est assez marquée, assez importante dans cette faculté-là, dont notamment une association musulmane. Ah, quelle joie! Elle
Incroyable.
a frappé à. Alors on m'indique où est-ce qu'elle est. Elle s'appelle Averroès. Et un beau jour, je décide. Alors j'avais pas beaucoup de temps pour faire la prière devant moi, donc j'avais pas le temps d'aller à la mosquée. Je me suis dit, est-ce que je peux peut-être tenter d'aller voir dans cette association-là, peut-être. Bon, faut pas le dire, on n'a pas le droit de prier dans les locaux, mais
Il y a prescription, il y a
comme tous les
prescription.
musulmans de France, je pense qu'on se cache pour prier
Exactement, on se
à
désentra
la
pas a
fac,
priori.
voilà. Donc je frappe à la porte de ce local et qui c'est qui m'ouvre la porte? Tadam, c'est Fatiha. Et voilà, on a fait connaissance à travers cette association-là. Alhamdoulilah.
D'accord. Et toi aussi pour Fatiha, c'était pas non plus C'est ça.
Quand t'es
Alors
rentré
moi, voilà, je suis née en France, mais c'est vrai que alhamdoulillah, mes parents ont eu la fabuleuse idée de repartir au Maroc. J'avais 2 ans à ce moment-là et j'ai grandi au Maroc, alhamdoulillah, jusqu'à l'âge de 17 ans. Et c'est là que voilà, mes parents ont redécidé voilà, de revenir. Donc on revient en France. Pour moi, c'était entre guillemets à l'époque la fin du monde parce qu'on quittait un peu notre famille, on quittait un peu notre voilà
Vos amis,
nos
vos
copains, nos
repères,
amis, nos repères, etc.
bien
Mais
sûr.
bon, on s'est dit, je me rappelais très très bien, on s'est dit, allez, on va tenter. S'il y a un bien, j'avais fait de à ce moment-là. Pareil, comme ce que disait Walid, c'était un moment où pour moi c'était un peu difficile. Donc voilà, on cherche, voilà, on s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu sais tout, alors guide-nous, apaise-nous si c'est un bien pour nous, etc. Donc c'était pour moi, c'était voilà, des petites épreuves comme ça qui font que voilà, qu'on s'oriente vraiment, qu'on se rapproche encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, je devais redoubler 2 années, je devais passer en terminale, mais suite à des retards administratifs. Je devais refaire la seconde en France, plus la première.
C'est ce que m'avait dit Walid. Et c'est en ça que je trouve que, tu vois, c'est vraiment cette idée de se dire, pour toi, c'est un mal quand ça arrive, en fait. Tu
Non
vois pas
seulement, ah oui,
le
c'est clair,
réel, en fait.
tu le vis mal. Là, c'est vraiment,
Ouais.
je pense que si on n'a pas la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait accepter exactement. Donc
Ouais.
c'est. Après voilà, on se remet à Dieu, on se dit alhamdoulillah, en plus mes parents à ce niveau-là, ils sont vraiment très très sages, donc ils se nous disent voilà, c'est sûrement un bien, c'est sûrement un bien, c'est sûrement un bien, même si nous on voit pas forcément.
Bien sûr.
Et par la suite, donc du coup j'ai fini le lycée, je rejoins donc pareil, j'avais choisi la fac de Paris 6, moi directement je suis passée par Paris 5, directement le choix s'est porté pour Paris 6 pour les études de médecine. Je me rappelais très bien, mon père il me disait mais c'est peut-être un peu compliqué tout ça, les études, le taux de réussite, fais quelque chose de voilà qui est plus abordable où tu vas pas trop trop galérer. Je lui dis écoute, je veux tenter, je veux voir, je veux faire, et puis au moins j'aurais pas le regret de pas voilà de pas faire quelque
De
chose
pas avoir
qui.
tenté.
Donc je travaille dur, je m'inscris à des préparations de concours, voilà, je me dis je vais tout donner pendant 2 ans parce que du coup j'ai refait la première année. Et ça marche pas. Ça veut toujours pas passer.
C'est dingue,
Donc
hein.
voilà. Donc c'est complication sur complication. Bah, c'est pas grave. On va faire ce que la majorité des étudiants de médecine font derrière. Bah, c'est la biologie. Donc je m'oriente enfin vers la biologie. Je fais ma licence. Et bah, c'était à la fin de ma licence que, effectivement, que, voilà. Donc à ce moment-là, moi, voilà, je m'orientais tout de suite, chercher des petits repères. En plus, déjà de la mosquée de Paris, des petits repères vraiment, musulmans vraiment
Qui
voilà
arrive à
pour
fin, en
avoir
fait.
un petit soutien, moi qui suis très très sociable, besoin de parler, besoin de discuter, et je tombe sur l'association Averroès à ce moment-là, et c'était vraiment déjà de très très belles rencontres sur place, et puis Après, quand Walid est arrivé, c'était encore plus.
C'était la rencontre.
Voilà, la rencontre, machallah.
Machallah.
Je ne savais pas du tout que ça allait, voilà, que ça allait changer notre vie, ouais. Subhanallah. Mais...
Ni elle ni moi, en allant dans cette association, on pensait que on trouverait plus que ce qu'on cherchait.
Bien sûr.
Et vraiment, avec le recul. Leçon. Pardon?
Non, je t'interromps, mais je trouve que c'est une belle leçon parce que c'est aussi la preuve que quand on cherche à se rapprocher d'Asfran Atarana, il y a de la lumière, en fait. Au-delà, vraiment, c'est. Recherche à te rapprocher d'Asfran Atarana, tu trouveras des belles choses. Quoi, tu ne sais pas. Mais déjà, fais cette démarche-là et le reste,
c'est lui confiance. Fais la démarche et fais confiance à Asfran Atarana et Allah, il facilite tellement de choses.
Et c'est ce qu'on disait avec le recul, en fait, toutes ces petites épreuves par lesquelles on est passé, que ce soit son redoublement, que ce soit les échecs entre guillemets dans les facultés de médecine, etc., ont fait qu'au final, aujourd'hui, on est dans une situation, on se dit, alhamdoulilah, on ne voudrait pas une autre situation que celle-là, tellement on est heureux. Non, vraiment, c'est vraiment le conseil que j'essaie de donner aux plus jeunes, aux petits frères, aux petites sœurs, c'est vraiment faites confiance à Dieu. Bougez, faites ce que vous pensez être le mieux, mais après faites confiance à Dieu parce que lui seul sait vraiment. Où est-ce qu'on doit aller, où est le mieux pour chacun d'entre nous.
C'est un très beau message. Et à l'époque où vous vous êtes rencontrés, quel était votre rapport et votre vision du mariage? Est-ce que pour vous, c'était, Inch'Allah, je me marierai, mais vraiment pas maintenant? Est-ce que vous aviez beaucoup d'attentes par rapport au mariage? Comment vous positionniez par rapport à ça?
Pour ma part, moi, Inch'Allah, je me marierai. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Je savais que la personne que je rencontrerais, fallait que je sois claire. Enfin, voilà, pour moi les choses étaient claires dans ma tête. Je sais ce que je voulais, je sais que ce que je voulais pas. Il fallait que tout soit clair, tout soit mis au propre, tout soit carré. Donc,
Moi j'y pensais pas trop encore à l'époque. On n'était plus avec elle en fait.
Tu l'as vu, après tu t'es dit mais en fait le mariage c'est sympa. C'est
Ouais c'est ça. En fait c'est ça c'est. Une fois qu'on s'est fréquenté et que bah en fait qu'on s'est rendu compte que ça pouvait aller plus loin, c'est là où je me suis posé et je me suis dit oui, peut-être le mariage faut l'envisager quand même.
D'accord.
Mais à la base, j'étais pas du tout dans cette optique-là. J'étais encore jeune, j'avais 21, 22, ouais. Donc j'avais le temps encore. Elle était un peu plus âgée, les femmes sont généralement plus matures que nous, les hommes. Donc je pense que de son côté, ça avait un peu plus elle avait déjà un peu plus préparé les choses. Moi, non, je me suis un peu laissé aller. Alhamdoulilah.
D'accord. Alhamdoulilah. Et justement, Fatiha, toi, tu disais que dans ta tête, tout était clair. C'était quoi, du coup, tes attentes? Est-ce que tu avais vraiment, est-ce que tu peux me dire un peu en détail, qu'est-ce que tu attendais, du zawaj, du mariage et de ton époux?
Alors, moi, ce que j'attendais, c'était un soutien. C'était clairement, je me dis, si je dois partager la vie avec quelqu'un, il faut qu'il soit prêt à me soutenir, faut qu'on soit prêt à tout partager. Mais alors là, quand je dis tout, c'est un T majuscule, vraiment tout, 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 tout.
Et... Tout comme trop aussi des fois.
Donc si c'est une personne qui veut avoir son petit jardin secret, sa petite vie de son côté, et puis on partage ça, non, c'est pas possible. Et puis surtout vraiment partager cet amour d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et cheminer ensemble vers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça c'était le principe de base. S'il n'y a pas ça, c'était même pas la peine d'envisager une suite ou quoi que ce soit.
Alhamdoulilah. Et ça, du coup, c'est cette vision claire que tu avais. Est-ce que c'est lié à l'éducation que tu as reçue ou est-ce que c'est lié au fait que toi, tu as fait des recherches avant de te marier? D'où tu tiens ça? Parce que c'est fort, je trouve, quand même, un si jeune âge, parce que, mine de rien, 24 ans, ça reste jeune, particulièrement en France, pour être aussi mature. Ça te venait d'où?
Je pense qu'il y a une grande part de l'éducation de mes parents. Après, je pense que les parents m'ont donné je sais pas si c'est des méthodes, en tout cas, ils m'ont poussé à réfléchir par moi-même, à chercher par moi-même, à me poser les questions par moi-même, assez tôt, en fait. Du coup, assez tôt, je me disais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, vraiment, ils m'ont poussé dans cette voie-là, dans tous les domaines d'ailleurs. Et encore plus dans le domaine religieux, dans le domaine de spiritualité. Ok, tu sais ce que tu veux, vas-y, cherche l'information, cherche, Donc forcément, je me suis documenté, j'ai pas spécialement pour le mariage, mais vraiment de façon générale sur la religion musulmane, forcément quand on cherche sur la religion musulmane, vu que c'est un mode de vie, un mode de vie qui tourne autour de la famille, forcément, on est obligé de se renseigner sur la famille, sur le concept de famille dans en islam, comment mener une vie sereine en couple, comment mener une vie sereine voilà, avec une autre personne qu'on n'a pas forcément connue voilà, pendant 20 ans, et que voilà, du jour au lendemain, voilà, on va devoir cheminer ensemble vers. Donc voilà, je me suis documentée, je me suis posé vraiment beaucoup de questions, et après il y a les rencontres, je pense, il y a les rencontres aussi autour de nous. Voilà, quand on voit aussi des couples autour de nous, on se dit voilà, ça je sais que je ne veux pas, ou ça je veux, ou ça voilà, il y a des voilà. Donc vraiment cette réflexion, je pense, c'est la réflexion en amont qui fait qu'on se prépare assez tôt à ce nouveau changement.
À l'éventualité, ouais, bien sûr, bien sûr. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a eu un moment pour l'un comme pour l'autre où vous vous êtes dit, c'est avec lui que j'ai envie de faire ma vie, ou ah, c'est avec elle, ou là vraiment, est-ce qu'il y a eu un moment précis, ou est-ce qu'au final, parce que, vous savez, souvent, il y a des personnes, quand on n'est pas encore marié, qui vont nous dire, non, mais tu sauras. Non, mais quand c'est la bonne personne, tu sauras. Je trouve ça d'un fou. Et je sais pas si ça a été le cas pour vous ou pas du tout.
Vas-y.
Ça a été le cas pour toi. je pense que le doute, il persiste toujours. Le doute, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix ou pas? Est-ce que, surtout que, on va dire, dans nos familles, enfin, en tout cas, moi, famille maghrébine, marocaine, sachant que lui, il est pas du tout marocain, il est pas du tout, voilà, on n'a pas du tout la même culture de base, les mêmes origines.
Attends, je rajoute, quand je suis parti la demander en mariage, j'avais donc 23 ans.
Étudiant.
Étudiant, pas de travail. Pas
non,
de...
Okay.
En fait, quand sa famille m'a accepté, machallah, ça a été un effort de leur part, et je trouve une confiance en Dieu qui est remarquable, vraiment.
Oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Et toi, c'est à ce moment-là, du coup, Walid, où tu t'es dit, non, c'est vraiment dans cette famille que j'ai envie d'évoluer, ou c'est venu plus tôt? On n'a peut-être pas laissé Fatiha finir.
Juste, moi, je sais que le doute a persisté, mais je pense que c'est mon côté un peu cartésien, en fait. Je partais toujours sur le, voilà, ok, j'ai mes règles de base, j'ai coché pas mal de cases, alhamdoulilah, il y a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a cette envie de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a, après le fait aussi qu'on a évolué ensemble au sein de l'association pendant presque 2 ans, où on se connaissait, je pense que ça a permis aussi vraiment de se voir dans des situations différentes, de stress, où on a élaboré des projets ensemble. Je pense que ça a beaucoup aidé, à se connaître, en tout cas,
à rassurer
exactement. Et après, voilà, donc on se dit, on a coché un certain nombre de cases, on a fait l'effort. Après, moi, je comptais énormément vraiment sur, je faisais confiance à Dieu ce matin-là jusqu'au jour du mariage, en fait. Vraiment, je me disais, s'il y a un bien, bah, Allah facilite, s'il y a un mal, bah, éloigne-nous. Vraiment, je faisais mon maximum, mais pour moi, c'est, voilà, j'ai jamais la certitude à 200%. C'était toujours, voilà, ok, maintenant j'ai fait ma part du boulot, je mets mon affaire entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vraiment, je lui fais pleinement confiance.
Bah, c'est beau, parce que de ce que je comprends, finalement, la seule certitude que tu as, c'est que Allah, il veut ton khair. C'est la seule certitude.
Exactement. Exactement. C'est qu'Allah, il ne m'abandonnera jamais, et que là où il y a le bien, bah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va me le destiner.
Alhamdoulilah.
Je vais rajouter un petit élément. Ouais. C'est à peu près la même chose. En fait, on avait les bases qui étaient présentes. Et vraiment, en fait, moi, je me rappelle, c'est qu'on faisait les choses pour Dieu. Le mariage, c'est une adoration. Ça fait partie, c'est peut-être une des plus grandes adorations de la vie. Et vraiment, c'est vrai que c'est stressant, surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas forcément tout, qu'on maîtrise pas forcément tout. Mais quand on se dit qu'on fait les choses pour Dieu et qu'on a tout fait pour que ça se passe bien, bah, et on est jeune aussi, et quand on est jeune, on se pose moins de questions. Bismillah, oui. On y va. Non, c'est vrai, hein. On est un petit peu fou. Et alhamdoulilah,
heureusement,
on a ce bien-là aussi. Je pense que si Dieu a fait que les jeunes sont un petit peu, voilà, ils ont ce tempérament un petit peu.
Fougueux.
Un petit peu, même de, en fait, c'est vraiment du tawakkul, en fait. On fait confiance à Dieu, on y va, bismillah. Et alhamdoulilah, parce que vraiment, on regrette pas, et si c'était à refaire, on referait. Après, peut-être avec plus d'appréhension, avec en étant plus vieux, parce qu'on ne se rendait pas compte.
Si vous aviez su, oui, c'est ça, c'est le fameux, ouais, bien sûr.
Et là où vraiment, on remercie nos parents de nous avoir fait confiance, parce que ce n'était pas évident pour eux aussi, hein, alhamdoulilah.
Mais c'est ça, ça va être ma prochaine question, du coup. Comment s'est passée la présentation aux parents? Enfin, comment vous en avez parlé à vos parents respectifs? Parce que, comme tu le disais, Fatiha, tu l'as un peu introduit, Walid, toi, de mémoire, ton père, il est syrien, c'est ça?
Oui, exactement.
Et ta mère est française?
Ma maman est française convertie.
Ouais. Et donc, du coup, est-ce que ça a joué dans la balance? Comment toi, t'as pu introduire Walid au sein de ta famille, Fatiha? Et toi, Walid, comment t'as pu introduire Fatiha?
Alors moi, ma maman est française convertie, alhamdoulilah, elle a l'esprit très ouvert, très très ouvert. Et donc vraiment, c'est vers elle vers qui je me suis tourné en premier quand je lui ai dit que j'avais rencontré une personne et que je pensais peut-être continuer ma vie, en tout cas un long chemin de ma vie avec cette personne. Et donc, ma maman travaillait sur Paris, donc on s'est organisé un petit restaurant. Je l'ai présenté à ce moment-là, donc j'ai présenté Fatiha à ma maman et vraiment le contact est très bien passé. Mais en même temps, j'en avais aucun doute. Je connais ma maman, je connais Fatiha, je savais que ça allait matcher. Là où j'avais le plus d'appréhension, c'était pour mon père.
C'est vrai, pourquoi?
Ouais.
Ça vient d'où cette appréhension?
Alors,
Et c'est ce qui m'a le plus stressé aussi, je pense.
Ah, parce qu'il t'en avait parlé, il t'avait
Bah,
dit.
en fait, je voyais ces appréhensions, je sentais, du coup, je me disais, ok, donc si lui, il a peur, qu'est-ce que ça doit être? Moi, je connais pas du tout son papa,
C'est
là.
paradoxal parce que mon père a fait cet effort d'amener une Française en Syrie, de se
C'est
marier
sûr.
avec une Française, alors que, enfin, vraiment, et pourtant lui, bon, il me disait toujours qu'il voulait que je me marie avec une Syrienne,
C'est
alors que,
vrai?
ouais, alors que non, c'était pas possible parce que une Syrienne, on n'a pas du tout la même mentalité. La mentalité de Syrie, moi, je suis français, j'ai toujours vécu en France, ça aurait été
Bien sûr.
compliqué. Et puis des
Ouais.
Français, des Syriens en France, à l'époque surtout, il n'y en avait pas beaucoup.
Il n'y en a pas des
Donc
masses, ouais.
voilà. Et puis, c'était aussi surtout plus vis-à-vis de mon père, c'était par rapport à ma situation. Mon père pensait que j'étais trop jeune, que je n'étais pas encore suffisamment mature, que je n'avais pas de situation. Quand je lui ai dit, il faut qu'on aille voir futur beau papa pour aller demander la main de sa fille, vraiment, il m'a regardé avec des yeux. Il a une expression, c'est que je lui ai coupé les jambes. Il m'a dit, j'ai plus de
C'est
jambes.
vrai.
Mais par la suite, on lui a greffé des ailes. Alhamdoulillah. On lui a dit ça dernièrement. On lui a dit, t'as coupé les jambes,
Ah,
on
c'est
t'a greffé des
trop
ailes. Ça va
beau. C'est beaucoup mieux.
mieux. Ouais. Non, mais au début, il voulait pas. Il m'a dit, non, non,
Ah, il
t'es tout
voulait
seul. Il
pas,
m'a
il
dit,
avait
tu vas
vraiment
tout
dit
seul.
non.
Ah oui, tu vas tout seul. Et
Il va tout seul.
alhamdoulillah, ah oui. Alhamdoulillah, en fait, il a une grande sœur. J'ai ma tante qui vit en Allemagne, qui, elle, est davantage consciente du bien que le mariage peut apporter, surtout dans la vie d'un jeune. Elle me faisait pleinement confiance, elle m'aime beaucoup, elle a vu mon évolution religieuse, tout ça. Vraiment, elle me soutient à fond. Et c'est elle
Inch'Allah,
qui a un
qui a
petit peu forcé
facilité.
son petit frère à accepter. Et même, elle est venue d'Allemagne. Elle nous a
Waouh.
accompagnés quand on est parti demander la main en tout cas faire les premières présentations.
Inch'Allah.
Donc, non, alhamdoulillah. Et vraiment, on lui est extrêmement reconnaissant aussi à ma tante, alhamdoulillah.
Ah, Inch'Allah.
Ouais.
Et donc, toi, du coup, Fatiha, comment ça s'est passé?
Alors, de mon côté, moi, pareil, j'en ai parlé à ma mère en premier. Et quand je lui ai commencé à lui annoncer, alors je suis un peu plus vieille que lui, pas du tout marocain. Pas du, alors déjà, pas, je commençais par pas du tout Chlech, donc une région du Maroc.
Ouais, bien sûr.
Après, on va sortir carrément du Maroc, il est pas du tout marocain. Donc petit à petit, elle me dit, ok, comment je vais annoncer tout ça à ton papa? Ok. Et au final, bah ils ont dit, ok, si c'est ton choix, bah de toute façon c'est toi qui vas vivre avec lui, c'est ta vie, bismillah, allons le rencontrer.
Mais
En fait, ce
non,
qu'il faut
tout
savoir, c'est que
simplement.
Fatiha, elle a toujours su s'imposer. Quand elle veut quelque chose, elle lâche pas,
Elle te
machallah.
demande pas ton avis, quoi. Elle t'informe.
Voilà. Et
Ça
ses
marche
parents
pas
la
tout comme
connaissent très
ça.
bien. Et ils savent très bien que, voilà, une fois qu'elle a
Machallah.
décidé quelque chose, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, elle n'écoutera pas. Alhamdoulillah.
Elle a bien fait, là, pour le coup.
Ben
Là,
oui,
pour le coup.
complètement.
Et
Ah
du
oui.
coup, ça allait être ma prochaine question, ce côté financier, parce que, ben, au vu de l'histoire que vous nous racontez, il semble clair que Walid, à moins que tu sois rentier, tu n'étais pas dans l'opulence, dans une opulence
Absolument
incroyable au
pas.
moment où tu as demandé Fatiha.
Complètement.
Et ma question, c'est, ça demande du courage, ça demande du tawakkul. Qu'est-ce que ça demande d'aller quelque part affronter, je mets des guillemets, mais j'en
Ouais,
ai pas beaucoup, tu vois,
ouais.
d'affronter un tuteur, un mahram, un père
Tout
aimant, en lui disant, alors moi c'est Walid, je suis très sympa,
à
mais le début risque d'être un peu compliqué. Mais du coup,
Complètement.
je vais quand même prendre votre fille.
Bah, moi, je pense que t'étais. Bon, t'as cette facilité-là de te vendre, entre guillemets, je
Ouais.
pense.
Non,
Après, bon, c'est hyper
c'est
stressant.
sûr que c'était pas évident.
C'est
C'était pas
stressant.
un moment évident, mais vraiment, encore une fois, on s'accroche à Dieu dans ces moments-là. On l'invoque sincèrement et on lui dit, Ya Allah, c'est pour toi qu'on fait ça. Parce que on va pas se leurrer. On se voyait assez souvent et on a commencé à ressentir des sentiments l'un pour l'autre. Et clairement, on savait très bien que on peut pas rester dans une situation ambiguë. C'est soit on fait les choses comme il faut et on se marie. Soit on arrête toute relation et il n'y a pas de pour pas tomber dans quelques malversations que ce soit. Donc vraiment on s'est dit voilà, il faut qu'on clarifie les choses si on veut continuer un bout de chemin ensemble, bah, il faut qu'on officialise les choses. Donc bismillah, on y va. Et oui, ça demande un petit brin de folie aussi, mais c'est pas de la folie, c'est vraiment du tawakkul en fait. On y va. Après, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, ils nous disent non, bah non, et puis on attendra. S'il faut attendre, on attendra, et au moins on sera fixé. Ou en tout cas,
pas de choix.
On n'avait rien à perdre. Fallait y aller. Ouais. Dans tous les cas, que ce soit oui, que ce soit non, au moins on aurait été fixé. Même si ça avait été un non, bah après on aurait réévalué la situation. Soit on attend, soit finalement on voit que ça aurait pu être possible aussi. C'était envisageable que ses parents disent non, pas du tout. Il correspond pas à nos attentes. On pense que ça sera pas un bon mari pour toi, etc. Eh ben, je pense qu'à ce moment-là, on aurait fait cet effort-là de se dire bon bah, qadarallah, si c'est vraiment ça bloque du côté de tes parents, peut-être qu'on va pas aller à l'encontre de la vie de tes parents et peut-être qu'il faut qu'on se sépare et que notre bien est ailleurs.
Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'était une éventualité à laquelle vous étiez préparé quand même.
Oui, c'était il y avait tout. Ouais. Il y avait le panel de toutes les possibilités vraiment.
De situation, d'accord. Ouais.
Ouais. Mais en tout cas, fallait y aller et voilà. Après, c'est la vie aussi. Hein. Des fois, il faut prendre ses responsabilités, faut y aller et puis.
Ouais, faut prendre ses responsabilités. Mais c'est bien ce terme que tu choisis parce que franchement, il y a beaucoup de sœurs autour de moi qui sont dans des situations où. Donc, il y a beaucoup de frères qui sont dans cette réalité de, oui, non, mais moi, tant que j'ai pas de stabilité financière, je me marierai pas. Alors, quand t'es tout seul et que ça n'implique que toi, soit, mais le problème, c'est que parfois, tu fais attendre des sœurs qui, elles, se disent, bon, bah, j'attends un an, deux ans, trois ans, voire plus. Et je trouve que c'est bien d'avoir le témoignage de personnes, qui ont osé et qui s'en sont remis au Seigneur, en fait. Parce que, à mon sens, c'est pas une bonne chose que d'attendre indéfiniment comme ça, en fait.
L'attente, c'est délicat comme situation. Honnêtement, on préférait être fixé plutôt que de devoir attendre dans le flou comme ça.
Mais c'est ça.
Et puis surtout, quand je me souviens très bien que quand on est parti du coup chez elle pour la première fois, il était clair et net que je n'avais pas de situation. Limite, on se mariait et c'était ce qui avait été décidé. Chacun chez soi dans un premier temps.
D'accord, j'allais poser cette question.
Moi, je restais chez mes parents. Fatiha restait chez les siens. Jusqu'à ce qu'on la situation évolue, jusqu'à ce que je puisse avoir un travail, avoir un appartement, qu'on puisse s'installer ensemble. Et on nous a bien demandé si on était d'accord pour ça. Et nous, c'était clair et net. On préfère être mariés et ne pas vivre ensemble que de rester dans une situation ambiguë ou que de ne...
De se perdre, en fait, ou de ne pas se marier du tout, en fait.
Ou de ne pas se marier à cause de ça. Vraiment... Voilà, au moins, même si on vit pas ensemble, mais au moins on peut, quand on se voit, alhamdulillah, on n'a aucune crainte, on est apaisé.
Bien sûr.
On peut sortir, entre guillemets, sortir ensemble, c'est-à-dire faire des sorties ensemble, pourquoi pas faire quelques voyages ensemble, etc. Et, en fait, aux yeux de tous, c'est ma femme. Femme. Alors, certes, je la ramène chez elle le soir, chez ses parents le soir, mais c'est temporaire.
Ouais, bien sûr.
Après, je sais pas si t'as... Après, vraiment, la situation s'est débloquée à une vitesse à laquelle ni elle ni moi n'espérions. Vraiment.
C'est vrai.
Ah oui.
Tu vas me raconter juste avant, mais je vous remercie tous les deux d'avoir apporté ces précisions parce que je trouve qu'on vit vraiment dans un monde où c'est la situation. Mais bon, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous demande de nous marier, demande de nous marier jeunes. Et la réalité, c'est que la situation financière, la réalité financière, c'est une réalité, en fait. Hein. On peut pas la nier. Mais c'est bien de montrer qu'il y a des solutions, en fait. Vivre sous le même toit, ça, c'est quand, alhamdoulilah, on a la possibilité que tout va bien, etc. Mais il peut y avoir d'autres options, quoi.
Complètement. Ouais. Et il y a, alors si on peut faire un parallèle, dans Surat al-Talaq, dans la Surat de la répudiation, il y a deux versets qui vraiment, sur le coup, on y pense, enfin, si on l'avait, on se les disait pour nous rassurer. Mais maintenant, on se l'est dit et on l'a vécu. Vraiment, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Et avant, c'est wa man yattaqillaha yarzuquhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Dieu, Allah va lui ouvrir des facilités. Et quelques versets auparavant, celui qui craint Dieu, Allah va lui ramener sa subsistance de là où il ne s'attend même pas. Et vraiment, subhanallah, on l'a vécu. On a fait les choses, alors dire qu'on craint Dieu, c'était un petit peu prétentieux de notre part, mais vraiment, nous, on faisait les choses pour Dieu. On voulait vraiment faire les choses le plus sainement possible, pour lui, pour le satisfaire. Et vraiment, il nous a ramené des bienfaits. Même quand je parle à des frères, ils ont du mal à y croire.
C'est vrai.
On a eu un appartement, mais d'habitude, il y a des temps, des mois et des mois d'attente, voire des années d'attente. C'était un logement HLM.
C'était limite une blague quand on a déposé la demande.
Ah oui, nous, on l'a fait, il faut le faire.
Et c'est vrai.
Rapidement, même pas quelques.
C'est 6 mois.
6 mois, même pas 6 mois après, on avait le logement. J'avais le logement, le travail, la voiture, j'avais tout ce que je
bah,
qui était nécessaire à avoir avant, ben, je l'ai eu en moins de 6 mois.
Waouh.
Ah, c'était incroyable. Sans parler de tout le bonheur et la sérénité qui va avec. Mais vraiment, c'est comme si la dunia nous a couru après.
D'accord.
Elle nous a rattrapé. Tout ce qu'on n'avait pas, ça nous est venu avec une facilité. Et on n'a même pas tant cherché à les avoir.
Oui, puisqu'on continuait tranquillement.
On était parti dans l'esprit que chacun reste chez soi. On fait les choses tranquillement et rapidement.
On verra quand tout ça.
Ça s'est débloqué. Alhamdulillah. Oh, vraiment, alhamdulillah.
Non, c'est super beau. Et du coup, si on s'arrête un peu sur les premiers mois d'union, est-ce que c'est un... En fait, j'allais dire, vous quand même, vous connaissiez, mais du coup, est-ce que quand on se marie avec une personne qu'on connaît pas vraiment, même si vous connaissiez un petit peu, est-ce que c'est si challengeant qu'on le dit? Comment vous l'avez vécu?
Alors, la vie, comment, une fois qu'on s'est installé ensemble, ou la vie à distance?
En fait, ça s'est fait en douceur.
Ouais, mais c'est ça, en fait. En réalité, c'est un peu ça. Pour vous, en fait, il n'y a pas eu ce
ouais,
ce
c'est
ça. Ça n'a pas été brutal.
Ouais.
On ne s'est pas retrouvé du jour au lendemain à vivre ensemble comme ça.
Et à la limite, votre situation a fait que, quelque part, vivre ensemble, c'était l'aboutissement, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est vraiment ça. Alhamdoulilah.
Il n'y a pas eu de mauvaise surprise, il n'y a pas eu de grosses difficultés, au contraire, c'était fluide. Et on s'est adapté l'un à l'autre très rapidement, alhamdoulilah.
Ça, c'est un mot important, je pense. Le fait de s'adapter, avoir cette capacité de s'adapter, je pense que c'est très très important, parce qu'il ne faut pas venir avec tout son bagage de sa vie et vouloir garder tout ce bagage-là. Moi, je ne change rien, je reste tel que je suis et tout en vivant avec une autre personne qui forcément il y a des choses il y a des réglages à faire, il y a des petites choses à faire et ça c'est faut en être conscient en fait. Il y a des réglages à faire, il y a des choses fixes, ça c'est clair net que ça ne change pas. Les petits réglages du quotidien, faut s'adapter.
C'est comme une nouvelle vie en fait. Alhamdoulillah, c'est des nouvelles bases, on construit ensemble. Et limite en fait, je me souviens plus comment c'était avant. Tellement maintenant, c'est
bien. Quand on a un enfant, c'était quoi la vie avant?
Voilà, c'est la même chose. C'était quoi la vie avant le mariage, monsieur? C'était bien, mais pas aussi bien que la
Mais fois. Pas aussi bien, alhamdoulilah. Et justement, vous parlez de vous adapter. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris, ou ça, c'est dès le départ, vous vous êtes dit, non, c'est comme ça, il faudra vraiment l'avoir en tête? Parce que, encore une fois, ça, c'est d'une maturité incroyable de se dire, dans votre vingtaine, parce que vous étiez tous les deux dans votre vingtaine, d'être capable de lâcher prise sur notre éducation, notre caractère.
Moi, je pense que c'est quelque chose qui me vient complètement de mes parents. Ça, c'est le fait de s'adapter à la personne qui est avec nous. C'est quelque chose que j'ai vu mes parents le faire, quand on est avec d'autres personnes, je vois mes parents comment ils s'adaptent à ces personnes-là, comment que ce soit des personnes âgées ou des plus jeunes ou des personnes différentes. J'ai vu cette façon de mes parents de s'adapter. Et je me suis pour moi c'était quelque chose qui allait s'imposer à moi à un moment donné ou à un autre. Et après je sais pas pour toi si c'était.
Je me souviens plus.
pour Walid, je pense que ce qui est bien, c'est qu'en fait il donne pas beaucoup d'importance aux choses du quotidien. En fait, les choses, tant que c'est pas quelque chose vraiment de fondamental, de primordial, il n'y a pas à se prendre la tête. C'est pas quelqu'un qui.
En fait, pourquoi j'ai choisi Fatiha aussi, alhamdulillah, ce qui fait que. Moi, j'avais un objectif étant jeune. Moi, je l'ai toujours, mais bon, un peu plus raisonné maintenant. Moi, je voulais clairement changer le monde. Okay. Vraiment, le monde a besoin de changement, le monde a besoin d'amélioration, etc. Et j'ai vu en elle quelqu'un qui était prête à me suivre dans
cet objectif-là.
Dans ce projet fou. quand l'objectif, il est bien au-dessus des petites choses du quotidien. Et ce qu'elle m'apporte, c'est tellement supérieur aux petits désagréments, aux petites choses sur lesquelles je dois m'adapter, que vraiment, c'est pas dérangeant. S'il faut s'adapter, on s'adapte. L'objectif, il est pas là. L'objectif, il y a zéro souci au quotidien. Ça n'existe pas. Non, l'objectif, c'est que vraiment, on avance ensemble, on chemine ensemble et qu'on emmène avec nous un maximum de monde. Moi, clairement, j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais je vais le dire maintenant, c'est voilà, j'ai pas forcément grandi. Autant, alhamdoulilah, elle a grandi dans un environnement familial, je vais le dire, assez pieux, assez avec la religion au centre du foyer, etc. Moi, de mon côté, pas tant que ça. La religion n'était pas le centre de nos vies. Allah subhanahu wa ta'ala était présent, mais sans l'être plus que ça. Et j'ai vraiment fait ce retour un petit peu vers Dieu pendant mes études. Et ça m'a tellement été bénéfique que je voulais en faire profiter toute ma famille, que je voulais en faire profiter tous mes proches. Et c'est pas évident. C'est pas évident, ouais. Parce qu'on ne comprend pas toujours.
Bien sûr.
Parce que des fois, on nous prend un petit peu pour quelqu'un qui va trop vite, qui va trop loin.
Tout à fait.
Mais Fatiha m'a complètement épaulé là-dedans. Et je me suis reconnu en elle, en fait. C'était un peu un miroir. Ce que je projetais pour moi et ma famille, je la voyais en elle. Oui. Et elle m'a accompagné là-dedans. Et vraiment, et très très vite, quand je l'ai présentée à ma famille, j'ai senti tout le bien qu'elle pouvait apporter à ma famille. Tout. Non, c'est vrai, alhamdoulilah. Et c'est ça qui était le plus important pour moi.
Oui, bien sûr.
Déjà, c'était que, voilà, le reste, c'est secondaire. C'est secondaire.
Bah, Mashallah, c'est bien parce que ça permet de voir que quand on garde en tête cet objectif principal dans notre quotidien, ça peut l'aider aussi à le soulager, en fait, de se dire, mais en fait, comme on dit en anglais, il faut voir the whole picture, en fait. Il ne faut pas s'attacher aux petits pixels, parce que moi, j'ai l'impression que les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, dans le fait de rencontrer la bonne personne déjà, et même dans le fait de rester marié, c'est qu'on est très attaché aux pixels. On est peut-être moins attaché à la grande photo, en fait, tout simplement. Et c'est bien de voir que c'est possible, finalement, de rester attaché à cet objectif principal et de pas voir que les petits steps qui peuvent parfois être gênants au quotidien, en fait.
Complètement. Et vraiment, je suis complètement d'accord.
Ouais, non, c'est tout à fait ça. Et puis, je vais rajouter une chose aussi, c'est que Fatiha, quand même, elle a fait le grand saut en me rejoignant moi, alors qu'elle était dans une famille aimante avec, enfin, je veux dire vraiment, ses parents, machallah, ses sœurs, elle vivait avec ses sœurs, ça se passait très bien. Et elle accepte de quitter ce cocon-là pour me suivre moi.
Ouais.
C'est une responsabilité pour moi aussi. Donc, il fallait vraiment que j'en mesure toute l'importance, tout le sacrifice qu'elle a fait. Voilà, comme on l'a dit, on roulait pas sur l'or au début, on n'avait pas forcément, et donc il fallait que je la mette, voilà, que je la rende la plus heureuse possible au vu de cet effort qu'elle a fait pour moi. S'il faut s'adapter, je m'adapte, il y a pas de souci. Elle s'est tellement adaptée elle aussi que les petites choses, au contraire, si je peux le faire, je le fais avec plaisir, vraiment.
Non, ben c'est bien, c'est des très très beaux, c'est des belles leçons. Et je pense que je serai pas la seule à ressortir de cette conversation avec beaucoup de choses inspirantes. Je voulais qu'on s'arrête un peu du coup sur le cheminement spirituel, parce que vous en avez parlé. Et moi, ma question, et en tout cas ce que j'ai souvent perçu chez vous, même si on se voit pas beaucoup, c'est cette stabilité dans le mariage qui est intimement liée à votre envie, votre besoin de cheminer vers la soirée ta'ala. Ma question, c'est comment vous avez fait concrètement pour cheminer à deux et pour mettre la foi au centre de votre vie maritale? Parce que c'est une chose, en fait, d'avoir la foi au centre de sa vie quand on est tout seul, mais j'ai le sentiment que quand on se marie, c'est pas qu'il faut tout refaire, mais il y a des réglages. Et vous, comment ça s'est passé pour vous?
Je pense que c'est Dieu qui fait. Alors, c'est pas une réponse facile, non, c'est clair. Je pense, dans un premier temps, vraiment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait les choses. Ça, c'est clair et net. C'est tout le mérite revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y a beaucoup de dua. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est vraiment beaucoup de dua. C'est tous les jours, voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de cheminer ensemble vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers son amour, vers sa satisfaction. Ça, c'est, voilà. Et quelle que soit la situation qu'on rencontre, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, de l'avoir avec une vision de qui va le satisfaire, en fait, dans notre façon de réagir, dans notre façon de nous comporter. Ben, on lui demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ça nous permette de le satisfaire. Après,
en fait, déjà, moi, j'ai envie de dire la base. Quand on s'est marié, on s'est dit pourquoi on se marie. On s'est posé la question, pourquoi on se marie? Est-ce qu'on se marie pour faire des enfants? Est-ce qu'on se marie pour kiffer? Est-ce qu'on se marie pour voyager? Non. Vraiment, si on se marie, on se l'est dit, hein, je m'en souviens très bien, c'est pour rentrer au paradis ensemble, main dans la main. L'objectif, c'est ça. Donc, une fois qu'on a fixé ça comme objectif ultime, après, on a construit petit à petit. Alors, voilà, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah, déjà, on prie ensemble. Alhamdoulilah, c'est chaque fois Alors quand voilà, quand je peux aller à la mosquée, alhamdoulilah, je vais à la mosquée, mais quand c'est pas chacun pris dans son coin, c'est on prie ensemble.
Ouais.
Nos invocations, elles sont communes. Enfin, pas toutes. Il y en a une pour elle, une pour moi, mais globalement, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Et on le demande ensemble.
Ah ouais? Mais vous êtes vraiment posé en se disant qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Vraiment?
Chaque année. Chaque année, à l'occasion du Ramadan, on se fait un petit bilan. Alors, c'est quoi nos invocations de l'année? Et ça volait chaque année, alhamdulillah. Bah, maintenant, il y en a beaucoup pour notre fille, mais il y en a beaucoup pour nos familles, il y en a beaucoup pour nous-mêmes aussi.
Bien sûr.
C'est des choses sur lesquelles on insiste. On insiste et alhamdulillah, ça porte ses fruits.
Alhamdulillah.
Et puis après voilà, chaque fois qu'il y a elle a l'occasion de faire un projet dans lequel elle peut satisfaire Dieu, elle peut en tirer des bénéfices, bismillah, je la soutiens à fond. Et inversement. Chaque fois que moi voilà, en plus j'aime beaucoup faire des projets, m'investir, etc. Et à chaque fois elle me pousse, elle m'encourage et quand il faut réparer parce qu'il y a des petites cassures, etc., ben elle est là aussi pour réparer. Alhamdulillah. Donc, c'est ça qui fait que, en fait, on se renforce mutuellement.
Mm-hmm.
C'est un peu une relation en triangle. Il y a Dieu, il y a elle, il y a moi, et on essaie ensemble de se rapprocher de Dieu. Et vraiment, il y a ce petit schéma qui est bien fait, je sais pas si tu l'as déjà vu. C'est
ouais.
Que la base du triangle, tu vois, on est un petit peu éloigné, mais plus on se rapproche de Dieu, ben plus on se rapproche l'un de l'autre.
Ouais, bien sûr.
Quand ta foi, elle est haute, alhamdulillah, ça impacte sur moi. Ça me tire vraiment.
Oui.
Et inversement, quand moi, je sais que voilà, je suis dans un petit moment où ma foi, elle est bonne, etc. Pareil, obligée, elle vient avec moi.
Oui.
Donc, on se renforce mutuellement. Et on s'est dit ça aussi très rapidement, c'est que dès qu'il y en a un pour qui ça va pas, que ce soit n'importe quel plan, sur le plan... physique, émotionnel, professionnel, etc., et surtout spirituel, dès qu'il y en a un qui flanche un petit peu, bah, l'autre, il peut pas se laisser aller. Non, on est responsable l'un de l'autre. Je suis responsable d'elle, elle est responsable de moi. Donc, quand je sens qu'elle, ça va pas, peu importe ce qui m'arrive à moi, là, je dois rentrer en jeu. C'est mon rôle. C'est à moi de rentrer en scène.
Ouais.
J'y vais. Je laisse de côté ce que je dois laisser de côté, et je fais tout pour faire en sorte qu'elle aille mieux. Et inversement. Et à chaque fois, en fait, je vais pas répéter et inversement à chaque fois, mais normalement, je devrais le mettre dans toutes mes phrases. C'est vraiment réciproque et mutuel. Et quand bien même, parfois, l'un d'entre nous joue le premier rôle pendant un certain temps, bah, il le jouera le temps qu'il faudra.
Vous arrivez à garder la patience sur la durée, parce que ça aussi, je crois que ça peut être un vrai challenge pour certains couples de se dire, à un moment donné, je suis fatiguée. Là, j'étais plein d'énergie, mais là, je suis fatiguée.
Alors moi ça m'arrive d'être fatiguée. Moi, je sais que j'étais, mais je sais que Walid, franchement, il a vraiment, à chaque fois en tout cas, il a fallu assurer dans la durée, il l'a fait. Je vous donne juste l'exemple de la grossesse qui n'était pas forcément facile.
Ouais.
Franchement, il était là. Il m'a toujours rappelé, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a toujours rappelé, voilà, vraiment.
En fait, c'est simple. Comme on revient à la règle de base, l'objectif c'est de rentrer au paradis. On fait tous des erreurs. L'être humain c'est un pécheur. On part du principe que là. Si d'entre nous tombe dans le péché, tombe dans l'erreur, qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'autre, on l'abandonne. Allez, tant pis pour toi, moi j'avance tout seul, hors de question. C'est pas notre objectif. Au contraire, on va le chercher, on le sort de l'erreur et on continue d'avancer ensemble.
Tu te plains trop? Non, jamais, jamais elle a dit ça. Donc vraiment c'était... c'est vraiment sur du long terme jusqu'à la naissance de la petite et puis même au-delà, alhamdoulilah.
Après, il y a aussi quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup aidé dans notre vie, vie de couple, mais aussi vie personnelle, c'est qu'on a pris des cours de sciences islamiques ensemble. Dès le mariage. On s'est jamais arrêté, alhamdoulilah, on continue d'apprendre. Et ça, vraiment, ça nous aide parce que on apprend et ça nous fait beaucoup de rappels. Et la patience, c'est une adoration, alhamdoulilah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, inna Allah yuhibbu as-sabirin. Allah aime ceux qui patientent.
Oui.
Quand on est face à une épreuve et qu'on patiente, on est pleinement dans l'adoration. Et vraiment, Dieu facilite. Alhamdoulilah, Allah, il facilite quand on est dans l'épreuve et qu'on s'en remet à lui. Et en fait, limite, j'ai jamais été poussé à bout au point de dire non, j'en peux plus, c'est trop, etc. Non, alhamdoulilah, ouais, je suis.
En
fait, c'est après, avec
je pense qu'il a dû oublier.
Avec le recul, c'était pas facile. Avec le recul, des fois, on se dit, c'était pas facile en fait ce qu'on a enduré. Mais dans le moment, on le ressent pas comme ça. Parce qu'encore une fois, l'objectif, il est clair, il est bien au-dessus de tout ça.
Oui, bien sûr. Mais je pense que Allah, il facilite aussi, parce que parfois on se dit, mais alors là, mais je sais même pas où j'ai trouvé la force. C'est comme pendant le mois de Ramadan, la fin, c'est pas du tout la même fin que quand t'es pas dans le mois du Ramadan, où là, moi personnellement, au bout de 3h30, j'ai très faim. Pendant le mois du Ramadan, bah, c'est pas du tout, c'est pas ça, en fait. Et tu sens que c'est Allah qui dépose vraiment sa baraka, ça nous facilite vraiment, en fait. Et je pense que c'est bien de le rappeler aussi.
Tout à fait, là on te rejoint à 200%.
Après, juste on n'est pas le couple parfait non plus, hein. Donc certains de nous fait des erreurs, mais ça fait partie justement ça fait partie d'ailleurs des règles qu'on s'était fixées dès le départ.
Ah oui, c'est vrai.
La règle du pardon mutuel, en fait. C'est qu'on savait dès le départ, on s'est dit ok, donc on va partager une vie à partir de maintenant ensemble. Donc la personne avec qui risque en tout cas de subir le plus de mes erreurs, mes manquements, mes faiblesses ou quoi que ce soit, forcément c'est la personne avec qui je partage la vie au quotidien. Donc on s'est dit dès le départ, un pardon,
un pacte de pardon mutuel, qu'il arrive.
Quoi
qu'il arrive. Même si on fait des grosses bêtises, en fait c'est simple. Comme on revient à la règle de base, l'objectif c'est de rentrer au paradis. On fait tous des erreurs. L'être humain c'est un pécheur. On part du principe que là, si d'entre nous tombe dans le péché, tombe dans l'erreur, qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'autre, on l'abandonne, allez, tant pis pour toi, moi j'avance tout seul, hors de question. C'est pas notre objectif. Au contraire, on va le chercher, on le sort de l'erreur et on continue d'avancer ensemble. C'est pour ça que voilà, alhamdoulilah, à chaque fois que l'un d'entre nous a pu commettre une erreur, l'autre a toujours trouvé la force de pardonner. Alhamdoulilah. Et subhanallah, quand on pardonne, la relation après le pardon, elle est encore plus forte qu'avant le pardon.
Wow.
Et ça, c'est divin, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on commet un péché et qu'on fait un repentir sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime encore plus que avant le péché. Et bien, on retrouve un petit peu cet amour, dans cet esprit un petit peu dans le mariage. Quand l'un d'entre nous a patienté et a su faire preuve de pardon et de miséricorde vis-à-vis de l'autre, la relation après, elle s'en trouve encore plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus fort.
C'est important, je trouve.
Plus miséricordieux.
Malheureusement, ouais. dans les couples, des fois, on a l'impression là, quand il y a des erreurs qui viennent de l'un ou de l'autre, ça entache en fait la relation et malheureusement, ça éloigne en fait les personnes. Alors qu'en fait, au contraire, c'est vraiment comment transformer cette erreur ou ce manquement, parce que on n'est pas parfait, on est des êtres humains, on est pécheurs, le fait de transformer l'erreur en une source de rapprochement en fait mutuel entre nous et en rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment un trésor en fait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous offre.
C'est vrai, enfin moi je suis vraiment je suis impressionnée et je suis ravie d'entendre tout ça parce que moi je regarde quand même beaucoup de vidéos, j'écoute beaucoup de podcasts autour du mariage et à chaque fois dans les espaces de commentaires et je me suis dit, mais ça faudrait que ce soit un épisode de podcast à part entière. Il y a toujours quelqu'un. Alors et pourtant enfin les rappels sont magnifiques, les couples sont inspirants et on a toujours quelqu'un qui vient avec toute sa détresse qui la pose en commentaire en disant oui, mais moi c'est pas pareil parce que moi vraiment ma femme elle est comme ça comme ça comme ça comme ça. Oui, mais moi c'est pas pareil parce que mon mari il m'a fait ça 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 ça. Et j'ai le sentiment que ce qu'il faut retenir de votre témoignage, c'est que il faut essayer autant que faire se peut de toujours garder en tête que Allah nous sauvera. Allah nous sauvera et Allah il vaut c'est pas une question il vaut tous les sacrifices. En fait, j'ai pris des pincettes en disant ça parce que encore une fois, je sais qu'il y a des notamment des sœurs qui vivent des situations extrêmement difficiles.
Bien sûr.
Du coup, je voudrais pas être celle qui dit supporte tout. Moi, je suis pas dans ce cas-là, mais en tout cas, ce que je retiens de votre témoignage, c'est vraiment de garder à chaque fois en tête la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala au sein de votre mariage et de se dire tout est plus grand que moi, tout est plus grand que cette micro-agression que j'ai pu ressentir ou ce sentiment d'injustice. C'est un peu ça.
C'est un peu ce que tu me rappelles, Medina, une parole que le professeur, notre professeur de sciences islamiques nous a dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pleinement.
Amin.
Il nous disait justement que faut voir les créatures, le créateur à travers les créatures. C'est en fait, il ne faut pas s'arrêter à la personne qui est en face de soi parce que c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut voir qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi à chaque instant, à chaque moment. Que ce soit face à l'erreur, ou face à, voilà, à une excellence de comportement, ou face, voilà, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit, faut toujours voir Dieu à travers. Mais ça, c'est pas, c'est un entraînement, en fait. C'est un entraînement. On n'arrive pas à voir ça du jour au lendemain. C'est un entraînement et c'est ça s'apprend, en fait. Ouais. Ça s'apprend.
Alors, je risque peut-être de dire une bêtise, mais il me semble que c'est le compagnon Omar qui, lorsqu'il est rentré chez lui, et que sa femme était en colère contre lui, il se posait la question quel péché j'ai fait pour que ma femme soit en colère contre moi. Pareil, je travaille avec un frère, machallah, il est top. Et pareil, lorsque ses élèves, parce qu'on est professeur, lorsque ses élèves le poussent un petit peu à bout, il dit oh mon Dieu, quel péché j'ai fait pour que tu m'envoies des élèves comme ça. Donc vraiment, c'est cette.
Après, ouais, c'est faut jamais se comparer aux autres, en fait. Faut jamais se comparer. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît chacun. Et il sait chaque personne ce qu'elle peut supporter, chaque personne ce que. Donc, si Dieu nous met dans une situation, il faut avoir cette conviction au fond de soi qu'on est capable de surmonter. Jamais Dieu ne nous imposera plus que ce qu'on peut supporter. La yakun li fadlihi wa nafsan illa wus'aha. Alhamdulillah pour sa clémence et sa miséricorde, parce que, voilà, quand on lui fait confiance dans ce sens-là vraiment, après on retrouve, en fait, cette force de pouvoir surmonter voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous nourrit par cet amour, par cette force, et on arrive. On arrive par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à surmonter les épreuves. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à tous nos frères et sœurs à travers le monde et fasse descendre sa miséricorde dans tous les foyers de nos frères et sœurs.
Et juste,
il
faut se remettre en question. Il faut se remettre en question parce que voilà, ça vient aussi de moi. L'erreur n'est pas toujours de l'extérieur. Ça ne vient pas toujours des autres. C'est facile de rejeter la faute pour l'autre, mon mari, ma femme, etc. Mais déjà, moi c'est sur moi vraiment que je peux agir en premier. Donc moi j'améliore mon comportement, j'améliore ma relation à Dieu et automatiquement ça va se ressentir chez les autres.
Ouais mais c'est vrai. Il y a un cheikh comme ça, c'est cheikh Yahya Ibrahim qui est aux États-Unis, et en fait il expliquait une chose qui est très drôle. C'est, il disait en fait parfois moi je fais des erreurs avec ma femme et ça passe. Elle me dit c'est pas grave, alhamdoulilah, tout ça. Vraiment ça passe. Et parfois je fais des trucs mais nuls, vraiment qui nécessitent pas qu'on se prenne la tête, et alors là elle me laisse rien passer. Et il dit en fait souvent je réalise que c'est entièrement lié à ma connexion avec Allah. Si ma connexion avec Allah elle est pas bonne, il y a un impact sur mon mariage. Si la connexion elle est bonne, alhamdoulilah, Allah il descend sa rahma, et du coup ça va beaucoup mieux.
Ah mais je le rejoins à 200% là-dessus. Ouais, complètement.
Alhamdoulilah. Et j'ai une dernière question classique, on va dire. C'est comment la vie en religiosité quand on a un enfant? Parce que j'imagine que c'est un grand bouleversement. Comment on fait pour garder la tête froide malgré les nuits blanches, malgré les différentes éducations, malgré le fait qu'on a un enfant, je sais pas, qui correspond, enfin c'est pas un enfant qui correspond pas, c'est que parfois on a un idéal d'enfant, puis après on réalise que l'enfant c'est un être humain, donc en fait il est pas parfait. Comment on fait pour garder une bonne religiosité et pareil la foi à l'intérieur de son foyer malgré tout ça?
Je pense qu'il faut se dire que chaque seconde que je passe avec cet enfant est une adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est déjà, si on part de là, on sait qu'on est en adoration continuelle quand on éduquant son enfant, en lui transmettant toutes les valeurs qu'on a envie de lui transmettre. Que ce soit des moments de, où je suis sereine ou des moments où je suis moins sereine, faut se le rappeler mutuellement. Et là encore, le couple est fondamental pour ça, pour se le rappeler, prendre le relais quand on, quand on est.
C'est ce que j'allais dire, c'est un travail d'équipe. C'est pas, elle fait tout le boulot et moi je, non, vraiment. Parce que si on se soutient pas mutuellement, en fait, on a beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, au bout d'un moment, la patience, elle a ses limites, le corps, il a ses limites, le mental, il a ses limites. Et c'est pour ça que le fait de pouvoir se relayer, le fait de pouvoir se conseiller mutuellement, temporiser, elle passe énormément plus de temps avec notre fille que moi, c'est de par nos occupations, mais le peu que je passe avec elle, ça la soulage. Ça la soulage, ça lui permet de penser à autre chose, de décompresser, d'avoir elle aussi ses occupations de son côté. Et encore une fois, on revient à la base, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu un enfant aussi, qu'est-ce qu'on veut pour cet enfant? L'objectif, c'est que cet enfant devienne, moi il y a un hadith que j'aime beaucoup, c'est le hadith des sept qui seront à l'ombre du trône, à l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Parmi ces sept catégories, on pourrait parler de ces sept catégories, je reviens sur une des catégories aussi sur lesquelles on s'était dit avant de se marier, c'est que il y a deux personnes qui se sont rencontrées en Allah, qui se sont aimées en Allah et qui se sont séparées en Allah. Et on s'est dit, on veut faire partie de ces catégories-là. Ouais. Donc, on s'est rencontrés en Allah. Moi, je me souviens que lorsque je suis parti frapper à la porte de l'association, c'était pour Allah. Allah nous a mis l'un sur l'autre sur le chemin. On s'est aimé en Allah, vraiment. Et le jour où il faudra se séparer en Allah, ben, on se séparera en Allah et il faudra être fort et à ce moment-là et faire preuve de, voilà, de piété à ce moment-là.
Ouais, bien sûr.
J'espère que ça n'arrivera le plus tard possible. Mais en tout cas, voilà, on s'y prépare. Et parmi ces 7 catégories-là, il y a aussi, alors je reviens aussi sur une autre catégorie, excuse-moi, un imam juste. Alors un imam, c'est pas forcément l'imam qui est à la mosquée, mais c'est un responsable qui fait preuve de justice. Et ça, on essaie de se l'appliquer au quotidien. Moi, je suis responsable, elle est responsable, et on essaie vraiment d'être juste. Et, ouais. Et après, il y a un enfant qui a grandi dans l'adoration de Dieu. Et vraiment, on veut ça pour notre fille. Pour tous nos enfants, pour tous les enfants qui nous entourent, on veut ça. On veut qu'ils grandissent dans l'adoration de Dieu. C'est que, voilà, Fatiha, elle essaie de faire un maximum de choses avec elle. Elle essaie vraiment d'éveiller son esprit, d'éveiller son cœur. Et même au-delà du ramadan, c'est tous les jours. On veut vraiment que notre fille, en fait, c'est la meilleure arme qu'on puisse lui donner. C'est la piété, l'amour de Dieu dans son cœur. Si elle a ça, il pourra lui arriver toutes les épreuves du monde. On sera tranquille. On sera tranquille parce que c'est Dieu qui va se charger de la protéger, de la faire grandir. Et elle aura cet outil-là pour surmonter tout ce qu'elle veut. Donc vraiment, alors certes, on fait des erreurs. Hein, on n'est pas des parents parfaits. Des fois, on en a marre. On essaie de papa en ce moment. On fait beaucoup de bien. Mais c'est ça l'objectif.
Ouais.
Et toujours se rappeler l'objectif. L'objectif, c'est celui-là. Et on fait ce qu'on peut, notre maximum. Et Dieu ne nous juge que sur ça. Alhamdulillah, il attend pas de nous qu'on soit parfait. On ne le sera jamais. Mais il attend qu'on fasse notre maximum.
Ouais.
Et voilà, et de temps en temps, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même façon d'éduquer. Et alhamdulillah, en fait, c'est un équilibre aussi qui se fait.
Oui, voilà. En fait, je voulais juste donner un exemple, en fait, juste peut-être pour illustrer le fait que, par exemple, pendant le mois de Ramadan, depuis que la petite est là, alhamdulillah, ça fait 3 ans. Avant, alhamdulillah, je pouvais aller à Tarawih, par exemple, tous les jours durant le mois de Ramadan. Sauf que là, depuis qu'elle est là, effectivement, déjà le fait qu'elle, quand elle était petite, qu'elle reste à la maison tranquille, que je reste avec elle. Mais là, j'aurais pu, franchement, j'y étais 2 fois, mais j'avais peur qu'elle dérange les autres, etc. Donc, j'évite un petit peu pour laisser les frères et sœurs se concentrer dans la prière. Mais, subhanallah, Dieu subhanahu wa ta'ala m'a permis, donc, même les prières que je fais à la maison, Allah subhanahu wa ta'ala m'a quand même donné cette sérénité comme si j'étais, en fait, à la mosquée. Parce que, voilà, je sais pas, je sais pas parce que quoi, mais je me dis, probablement parce que j'ai mis cette intention, je me dis je ne veux pas déranger les gens, mais je veux quand même profiter de mon mois de Ramadan. Donc je veux dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va donner cette spiritualité, qui va permettre vraiment de vivre les moments d'adoration qu'on faisait avant d'avoir les enfants. Il nous donne en fait d'autres moments différents, mais tout en étant avec les enfants, tout en étant parents, on arrive quand même à adorer Allah subhanahu wa ta'ala différemment, mais toujours aussi profond. Alhamdoulilah.
Oui. Je peux juste embrayer sur ce qu'elle dit. En fait, fois, nous, on veut adorer Dieu
comme
on le veut, nous.
Oh, c'est l'histoire de ma vie, ça. Ouais, tout à alors fait. Je vois bien ça.
Et alors qu'en réalité, si vraiment on est sincère, on doit l'adorer lui comme lui le veut. C'est-à-dire que si l'adoration se passe par le changement de couche, il doit passer par le changement de couche, quand bien même c'est difficile. Si, comme elle l'a précisé, ça passe par le fait de se priver des prières nocturnes à la mosquée, et ça passe par là. Et peu importe, en fait, si vraiment on est sincère pour Dieu, là où il nous met, là où, on le fait de bon cœur. Alhamdulillah. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on a goûté à ça, alhamdulillah, il peut se passer ce qui doit se passer, on est prêt à tout.
Mais ça, c'est vrai pour tout, en fait, parce que moi, c'est vraiment quelque chose, je le vois beaucoup avec la parentalité, parce que parfois, il m'arrive de garder mes neveux et nièces, et effectivement, on se dit, non, mais là, c'est pas... je sais que c'est un acte d'adoration de s'occuper des enfants, mais en fait, au fond de soi, on se le dit très vite, mais moi, c'est pas cette adoration que je veux faire. Et là, on se rend bien compte quand on le dit, parce qu'en fait, il faut le dire, parce que quand on le dit, c'est là qu'on réalise justement ce qu'on est en train de dire et ce qu'on est en train de penser. Et moi, quand je me disais ça, je me disais, mais t'es marrante, toi, on t'a pas demandé... tel type d'adoration, c'est pas toi qui décides. L'idée, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pas de se dire, moi, je veux l'adorer comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Et puis, et ça passe aussi par le célibat. En fait, parfois, nous, on se dit, non, mais moi, je veux vraiment adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers le mariage, pourquoi je me marie pas, etc. Et, dans les moments, où c'est plus difficile, parce qu'il y a des moments où ça va, il y a des moments où c'est, l'attente est plus dure. Ben en fait, j'essaie de me rappeler ça, de me dire, non, mais en fait, t'es au, à l'endroit où Allah souhaite que tu sois pour toi, en plus, parce que lui, il n'y a pas besoin de nous. Mais il faut toujours se rappeler que, ben, tu peux être un excellent croyant, parce que le goal, c'est le paradis. C'est tout. Le goal, c'est pas d'avoir une maison avec vue sur la mer, d'avoir 12 enfants, voilà, de faire des voyages incroyables avec son mari qu'on va poster derrière. C'est pas ça le projet. Le projet, c'est d'entrer au paradis. Est-ce que je peux entrer au paradis sans avoir des enfants et sans être mariée? Oui. D'ailleurs, moi, à chaque fois que je lis le vendredi la sourate Al-Kahf, c'est écrit. Je crois que c'est les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde, mais les voilà, mais les bonnes œuvres qui subsistent. Ont bien plus de, pas de mérite, mais en tout cas, elles sont très, très, très appréciées par Aswana Tarana. Et ça, à chaque fois que je le lis, je m'en lasse pas. C'est une douceur pour toutes les personnes qui soit sont célibataires, soit sont mariées depuis des années, et puis, ne parviennent pas à avoir d'enfants. Faut se raccrocher à des ayahs comme ça. Encore une fois, un ayah, c'est pas un verset, c'est un signe. C'est un signe. Et il faut le garder en tête, ça, en fait.
Et se dire que si on était dans une autre situation, probablement que ce serait.
On aurait mâché.
Ah oui. Tout à
Parfois,
fait.
Il vaut mieux être célibataire qu'être dans un mariage et être un mauvais mari ou être une mauvaise épouse.
Tout à fait. Tout à fait.
Parfois, il vaut mieux ne pas avoir d'enfants qu'avoir des enfants et être injuste envers eux. Et, voilà. Donc, voilà. Ce que tu as dit, on te rejoint à 100% là-dessus. Hein. Être là où il faut qu'on soit au moment où on doit l'être. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Et c'est, il faut vivre l'instant présent. Qu'est-ce que Dieu attend de moi à ce moment-là? Et pareil, se rappeler le plus souvent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il aurait réagi à ma place? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Ça, il faut le connaître. Donc après, voilà. Et ça, c'est une histoire aussi qu'on aime beaucoup. Voilà, le fait d'étudier ensemble, le fait de faire des rappels ensemble, on aime beaucoup la sirah, on étudie beaucoup la sirah ensemble, etc. C'est des choses qui déjà nous font beaucoup de bien spirituellement et font beaucoup de bien aussi à notre couple.
L'une des dernières questions que j'avais, c'était en quoi s'aimer en Dieu, c'est s'aimer mieux? Mais en fait, vous y avez répondu. Notamment à travers cette dernière phrase, en fait, de dire qu'en fait, c'est vraiment un... Parce que, en fait, parfois, on peut aussi se perdre dans certains couples qu'on voit en disant, non, mais eux, voilà, ils sont en couple depuis 20 ans, 30 ans. Parfois, ce frère-là, ils sont pas mariés, ils sont pas dans la religion et puis ils ont pas l'air malheureux. Mais en fait, ce que vous avez montré là, c'est que encore une fois, c'est pas... L'enjeu c'est pas la dounia. L'enjeu c'est pas d'être heureux ici. Et je rajouterais quand même que malgré tout, avec la foi, j'ai le sentiment qu'on sera quand même toujours plus heureux dans cette dounia.
C'est sûr.
On est d'accord.
J'en suis sûre et certaine.
Ouais.
En fait, avec la foi, on arrive à se détacher en fait des futilités, je trouve, de ce bas monde qui, je trouve, pollue en fait notre quotidien. D'ailleurs, on peut pas se complètement être détaché de ce moment parce que c'est un outil, on doit l'utiliser, on doit vivre avec, mais le fait d'avoir la foi, je trouve que c'est un peu l'essuie-glace qui balaie un petit peu ces futilités là et qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure
sur l'essentiel, sur
l'essentiel, vraiment voir, voilà, ok, d'accord, très bien, ça j'ai utilisé, mais maintenant allez, je vais à l'essentiel, vraiment grâce à cette foi, grâce à cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on lui demande de tout le temps illuminer notre vie et de faire descendre vraiment cette rahma dans les cœurs des couples, alhamdoulilah.
Et juste pour revenir sur la phrase que tu disais, en fait, c'est un cercle vertueux. On s'est rendu compte que plus on aime Dieu, plus on va s'aimer l'un et l'autre. Plus je vais aimer ma femme et plus elle va m'aimer. Et plus j'aime mon épouse et elle-même, et plus, en fait, on va aimer Dieu.
Donc
vraiment, c'est un cercle vertueux qui fait que, d'année en année, en fait, c'est de mieux en mieux. Alhamdoulilah.
Oui, alhamdoulilah. Et c'est aussi ce qu'on appelle, moi, c'est ce que je vois comme le véritable amour. C'est-à-dire que c'est pas un amour complètement narcissique. C'est pas je l'aime parce qu'elle m'aime beaucoup. C'est pas ça. Mmh. C'est je l'aime parce que, alhamdoulilah, elle me pousse à être un meilleur croyant. Je l'aime parce que il m'aide. Voilà, exactement. Et c'est un amour qui pousse à aimer encore plus un enfant. Là, en fait, c'est vraiment moi ce triangle, j'utilise beaucoup en disant qu'en fait, c'est des énergies aussi qui passent d'un être à l'autre, en fait. Parfois, plus on aime Allah, Allah il redescend son amour sur son partenaire, et son partenaire sent tellement d'amour qu'il en redonne à son partenaire, et son partenaire il redonne à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est, pour moi, c'est vraiment ce triangle. Il a aussi une dynamique qui est très vivante et qui est très présente, je pense.
Très très beau. Parce que je conçois tout à fait ce que tu dis, et c'est tout à fait ça. C'est vraiment ce qu'on ressent.
Alhamdoulilah. Bon, et ben, on va passer aux questions signatures. Ça permet d'en apprendre toujours plus sur vous et de se régaler encore un petit peu. Alors, la première question, c'est quel est le meilleur conseil que vous avez reçu ou lu ou entendu sur le mariage avant de vous marier?
Ah, moi, c'est tawakkul, fais confiance à Dieu.
Et alors, est-ce qu'il y a un conseil, en gros, le pire conseil, où vous vous êtes dit non, ça, c'est pas du tout adapté à ma vie, ça, je l'oublie, et je réalise que le mariage, c'est aussi quelque chose qu'on construit.
Ouais. Moi, comme on dit, soit un homme, soit en gros, impose-toi en tant qu'homme dans le foyer, il faut qu'on sache qui dirige, etc. Franchement, non. Moi, ça ne me correspondait pas, ça ne correspondait pas du tout à l'image du couple qu'on voulait construire. Il n'y a pas de je suis l'homme, c'est moi qui décide, c'est comme ça, c'est pas autrement. Absolument pas. Être un homme, c'est être à l'écoute. C'est être à l'écoute et après, certes, la responsabilité, je la porte sur mes épaules. Le jour où il faut décider de faire quelque chose, bah, c'est moi qui porte la responsabilité. Mais à aucun moment, je peux croire que je peux me passer de son avis, que je peux me passer de ses conseils, que je peux me passer de prendre en considération tout ce qu'elle porte. Parce que c'est le pilier du couple aussi. Et si j'oublie ce pilier, je m'effondre, c'est sûr.
De toute façon, je te laisserai pas. Après, moi, un des pires conseils que j'avais entendu aussi, c'était garde tes distances avec la belle famille. Ah, ça oui. Aussi, je trouve que c'est
hyper intéressant ce que tu dis. Ah ouais.
Franchement, il y a beaucoup de personnes qui tout de suite disent ah oui, tu vas te marier. Alors en plus, comme nous, c'était parce qu'on n'a pas raconté un tout petit épisode quand on s'est marié, donc chacun reste chez soi. Il se trouve que
mon père, il a eu pitié de nous, en fait.
Ah bon, en fait, il y a eu sa maman qui s'est fait opérer, je sais pas si tu te rappelles. Et que du coup, je suis venue rester quelques jours quand même auprès de sa maman. C'était une très, très belle période pour l'aider, pour rester avec elle. Et en fait, depuis ce moment-là, en fait, je suis restée finalement chez ma belle famille. Donc, je suis restée chez ma belle famille, je sais plus, les 6 mois d'après. Avant qu'on ait
mais non, c'était censé rester quelques jours et en fait
voilà, finalement c'est voilà, j'ai
en fait, je devais la ramener le soir chez elle et mon père je dis non mais c'est bon.
Tu vas pas faire les allers-retours.
Alhamdulillah, dans ma tête, bien t'es gagné. Si c'est lui qui me dit ça.
Ah ouais.
Et je me dis franchement, c'est une super belle période vraiment où j'ai appris vraiment à connaître ma belle famille, Alhamdulillah, ça s'est super bien passé. Après, je dis pas non plus que dans toutes les familles, on s'entend super bien. Mais ne pas partir déjà avec ce blocage tout de suite. Je garde ma distance alors qu'il se trouve que t'as une belle famille, mashallah, qui sera tellement.
Et je peux le dire, elle apporte énormément à ma famille. Alhamdulillah, vraiment. C'est ce que j'espérais. C'est ce que j'espérais et ça s'est pleinement réalisé. Alhamdulillah.
Magnifique. Et alors, quelle est la chose, si vous deviez retenir une seule chose, quelle est la chose que vous préférez du mariage?
Le fait de ne jamais se sentir seul. Pourtant, on n'est jamais seul. Hein.
Oui, bien sûr.
Dieu est toujours là. Alhamdulillah, Dieu est toujours là. Mais des fois, c'est malgré le fait qu'on sache que Dieu est toujours avec nous, des fois, quand même, que ce soit dans les bons moments comme dans les mauvais moments, on a envie de partager et de...
Avec un humain.
Non, c'est ça.
Ouais, je suis assez d'accord. Je vois tout à fait.
Ce sentiment de solitude, je ne l'ai plus. Je ne l'ai pas ressenti depuis je ne sais pas combien d'années.
Alhamdulillah.
Et moi, c'est quelque chose que... Voilà, la solitude, je n'aime pas ça. Donc vraiment, ça me correspond pleinement.
Alhamdulillah. Pareil. C'est vraiment... Voilà, c'est un sentiment de sécurité permanent, en fait. Tant, quand je dis sécurité, pas que sécurité physique, mais vraiment... émotionnelle, affective, je me sens vraiment pleinement sécurité.
Pleinement en sécurité. Bah, tu vois, je fais juste là, ça permet aussi un peu de reboucler le début de votre histoire où en fait on vit dans une époque où la sécurité, quand on pense à la sécurité, c'est la sécurité financière. Et en fait, il n'y a pas la sécurité émotionnelle, il n'y a pas la sécurité religieuse. Et en fait, c'est beau aussi de clôturer là-dessus, de dire qu'en fait la sécurité, avec un grand S, Ça implique beaucoup de dimensions, et c'est pas parce qu'une personne elle a une sécurité financière que le reste c'est ok et que c'est acquis en fait.
Complètement. Ah, mais vraiment, c'est t'as touché le un point qui est mal, voilà, qui est très très sensible.
Tu sais, on va même aller plus loin. On aime bien imaginer des scénarios. Avec ce qui s'est passé en Ukraine récemment, là, si la guerre éclate en France,
qu'est-ce qu'on fait ?
Et honnêtement, en fait, le fait que on soit ensemble, alhamdoulilah, on reste serein malgré tout. Mm-hmm. On reste serein. Et quand bien même on devrait se séparer pour des raisons diverses et variées, en fait, on ne serait pas séparés. Même si elle est dans un pays, moi je suis dans un autre, on reste ensemble. Alhamdoulilah. On est connecté en fait. On est connecté avec Dieu, et par notre connexion avec Dieu, on est connecté ensemble.
Oui, bien sûr.
Et voilà. Et alors certes, ce sera difficile, mais moi je continuerai à faire mon maximum, elle continuera à faire son maximum. C'est ça aussi, c'est la joie du mariage, c'est ça, alhamdoulilah.
Ah, c'est vraiment beau, alhamdoulilah. J'ai deux dernières questions. La première, c'est que, donc bon, moi je suis d'origine sénégalaise, je suis d'origine peul, et on dit Deogal ko mounial, donc le mariage, c'est le mounial. Le mounial, c'est un peu ce mélange de patience, de sabre, et en fait, justement, c'est quelque chose qui peut paraître assez flou pour des personnes qui sont pas mariées, et par contre, les parents le répètent, je pense, 20 fois, 30 fois, 50 fois, le soir... ou le jour de la cérémonie. Ah, tu sais, le mariage, c'est du mounial. Le mariage, c'est du mounial. Et donc, tu leur dis, bah, dites-moi un peu, non, précisez un peu le fond de votre pensée. Tu verras. Ouais. Ma question, c'est, ça prend quelle forme chez vous, ce mounial, cette patience, cette résilience, ce sabre?
C'est au quotidien.
Ouais, c'est au quotidien.
En fait, c'est des petites choses. C'est des petites choses qui pourraient être insignifiantes. Mais des fois, notre âme, notre nefs, il aime pas. Il aime pas et il a envie de réagir. Il a envie de. Ouais, il a faim. Il a faim. Mais un des objectifs de notre vie aussi, c'est d'éduquer son âme. Et ben, en fait, le mariage permet grandement d'éduquer son âme. Ça aide à. Ok, c'est pas grave, on patiente. Ok, c'est pas grave, fais-le, c'est pour Dieu, fais-le. Et moi j'en ai plein d'exemples comme ça. Alhamdulillah, parce que ça m'est utile en fait. Ça m'est complètement utile. Et encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, faire ce que Dieu veut plutôt que ce que je veux. S'il faut que je fasse la vaisselle, bon bah allez, faisons la vaisselle, c'est pas grave, au contraire.
Ouais, bien sûr.
Un frère m'a donné un très beau conseil, juste pour tous les frères qui se retrouvent corvée de vaisselle. Faut nettoyer comme on aimerait qu'Allah nettoie nos cœurs. Du coup, moi je pense à ça quand je fais la vaisselle, alhamdulillah. Donc, on en profite pas, je fais pas la vaisselle.
Et toi, Fatiha, ça passe par quoi?
C'est vraiment des petites choses, vraiment au quotidien, mais c'est insignifiant en fait. Quand on les replace dans le contexte.
Voilà, quand on remet en perspective l'objectif du mariage et l'objectif de la vie, etc., on serait vraiment, excusez-moi le terme, on serait vraiment idiot de s'arrêter sur ça. Mmh. Ouais, la vie est beaucoup plus précieuse et le temps est beaucoup plus important que pour s'arrêter sur des petites choses comme ça. C'est rien, alhamdoulilah, on avance.
Mais finalement, de ce que je comprends, finalement, le sable, le mounial, la patience pour vous, c'est quelque part parvenir à rendre les choses qui pourraient prendre beaucoup de place, les rendre insignifiantes ou les garder justement dans leur place insignifiante en fait. Tu vois,
mais vraiment donner à chaque chose vraiment la valeur qu'elle mérite exactement. C'est pas parce que il y a des chaussettes qui traînent ou il y a des chachillas qui traînent par-ci par-là que j'ai pas tout dévoilé, qu'on va se prendre la tête tous les jours. Voilà, sur des petites choses comme ça, ok, bah, on trouve une autre solution, on met une corbeille, on essaie d'innover, de faire quelque chose, mais pas se prendre la tête pour des choses comme ça. Enfin, je donne l'exemple des chaussettes, mais ça peut être des dépenses, ça peut être autre chose,
Et là, ça me fait juste penser à une chose, c'est que, il y a un hadith assez connu là-dessus, c'est que, parmi les missions principales de notre ennemi, de notre plus grand ennemi sur Terre, donc Shaitan, c'est de séparer l'homme de sa femme. C'est de séparer le couple.
Ah, ça, c'est son travail préféré, complètement.
Exactement. Il sait que là, il touche quelque chose de très, très sensible. Et du coup, il va essayer de rentrer par de multiples moyens. Et en fait, c'est bien de bloquer ces portes-là. De dire non, par là, tu rentreras pas. Et il y a plein de petites astuces, plein de petites choses à faire. Par exemple, ne serait-ce que, quand on rentre dans la maison, dire salam alaikum, dire les doigts, etc., faire nos différents doigts, différents moments de la journée. Mais il y a aussi, le fait de dire, de repérer les failles par lesquelles il pourrait rentrer et de bloquer, dire non,
et là ça va être... Mais c'est beau, c'est en fait L'idée, c'est de se rappeler à chaque fois que justement ces petites contrariétés, c'est Chétan aussi qui susurre ça en disant « Ah, t'as vu, c'est un peu abusé ça.
Ouais,
t'as vu, c'est un peu chaud ça. » Et se rappeler ce truc de « Non, ça, j'écoute pas parce que vraiment, voilà. C'est pas, ça va pas m'aider, c'est Chétan. » Et dès là, on se dit « C'est Chétan, ça part de notre tête et ça permet de rester focus, quoi. »
C'est ça.
C'est ça.
Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, un conseil, une pensée, un hadith, un verset, comme vous souhaitez?
Alors, moi, ce que je souhaiterais juste rajouter, c'est que on n'est pas un couple parfait. Ça, oui. C'est sûr et certain. Mm-hmm. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a vraiment gâtés par plein de choses, notamment ne serait-ce que pour, par nos familles, alhamdoulilah, qui nous ont aidés, tout au long de ces 10 dernières années, alhamdoulilah, par nos proches, par alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a gâtés, donc on le remerciera jamais assez. Et si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est toujours attacher son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander vraiment de nous illuminer notre chemin et avec la certitude de sa réponse. Et je n'ai aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous répondra. Si on a cette sincérité dans le cœur, il faut avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous guidera.
Mashallah. Et moi j'aime beaucoup la comparaison que Allah subhanahu wa ta'ala utilise dans le Coran lorsqu'il compare le mari et sa femme à des vêtements mutuels. Oui. Vraiment, elle est un vêtement pour moi, je suis un vêtement pour elle. Et le vêtement, il a de multiples usages. Il a le fait de protéger du froid, des intempéries, de plein de choses. Il a celui d'embellir, il a celui de réchauffer, etc. Et vraiment, je crois que le terme, Allah subhanahu wa ta'ala, il te reposer auprès d'elle. Et vraiment, c'est cette sécurité dont on parlait tout à l'heure. C'est le fait de pouvoir apaiser son cœur en communion avec le sien. Pour mieux adorer Allah, c'est trop beau. Et c'est Allah, il crée les choses de la manière la plus parfaite. Et lorsqu'on arrive à faire rentrer ça dans notre couple quotidien, vraiment, alhamdoulilah, c'est un très grand bienfait, comme Fatiha disait, pour lequel on ne pourra jamais suffisamment le remercier et on y sera éternellement reconnaissant. Et subhanallah, après, donc l'homme et la femme, lorsqu'ils s'aiment et qu'ils cheminent ensemble ici-bas, Allah les réunit dans l'au-delà. Et vraiment, ça ne peut que nous pousser à aimer encore plus notre Créateur.
Après, il y a peut-être aussi juste une dernière chose, peut-être, c'est on disait tout à l'heure qu'on avait commencé à apprendre les sciences islamiques avec notre professeur Mohamed Najjar. Et en fait, une des choses qu'on avait appris dès le départ, alhamdoulilah, c'était on avait appris justement, on avait pris les cours, mais vraiment détaillés sur la vie maritale, avant, pendant, après. Vraiment, c'était hyper détaillé, alhamdoulilah. Et je pense que
ça nous a beaucoup apporté. Hein.
C'est très important ce que tu dis là, Fatiha, de se dire qu'effectivement,
de faire ensemble. Ça n'a pas de prix. C'est vraiment.
Ça évite qu'il y en ait un qui avance trop vite par rapport à l'autre, qu'il y ait des décalages, des incompréhensions. Là, le fait que
d'anticiper même certaines situations, certaines choses, de réfléchir avant.
Ça, c'est un conseil qu'on aimerait donner à tous les couples, jeunes ou moins jeunes. Hein, c'est de prendre le chemin de la science ensemble. Mm. Vraiment, il y a pas plus précieux que ça.
Ça, c'est comme c'est une lumière en fait dans la maison, c'est lampe allumée en permanence. Donc on est sur ce chemin-là, ça n'a pas de prix. C'est un trésor. Alhamdoulilah. Tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont en couple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette son amour dans leur couple, et ceux qui sont célibataires, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur permette de rencontrer la personne qui leur convient et qui cheminent ensemble vers cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il appuie tout le cœur et
le meilleur moment de leur vie.
Amin.
Exactement. Amin. 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 Et merci beaucoup, Walid et Fatiha.
Merci à toi, Madina. Barakallahu fik, Allah te récompense.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je tenais à vous remercier infiniment pour les retours dithyrambiques suite à la diffusion de ma conversation avec Amar, le fondateur de MyNifs. Si vous ne l'avez pas encore fait, foncez écouter cet épisode, vous en apprendrez beaucoup. Barakallahu fikoum également pour les partages, les doux messages, les notes et les commentaires laissés notamment sur Apple. Qu'Allah Zawajel vous récompense grandement pour le temps accordé et que sa grâce et son amour emplissent vos cœurs. Si comme moi, vous êtes persuadé que ce podcast et ses invités méritent d'être connus par un maximum de personnes, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 20 secondes et d'y ajouter un commentaire sympa, ça c'est si vous avez 2 minutes. N'hésitez pas également à partager les épisodes autour de vous. C'est le seul moyen matériel de me donner de la force et de l'amour. Il m'en faut beaucoup. Je vous souhaite une magnifique semaine, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Que la paix et l'amour d'Allah soient sur vous, toujours.